Santé pour tous. Santé pour tous. Santé pour tous, tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bollo. Interview, reportage et dossier ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Aujourd'hui, nous allons explorer une question cruciale qui touche des millions de personnes. Il s'agit de la législation liée au VIH en Côte d'Ivoire qui se concentre sur l'ensemble des lois et règlements qui encadrent la question du VIH dans notre pays. Depuis l'apparition du virus, le gouvernement ivoirien a adopté des législations pour garantir l'accès aux soins, au dépistage et au traitement volontaire du VIH. Dans le magazine de ce jour, ensemble avec notre expert, nous allons examiner ces lois à mieux comprendre pour ainsi prendre soin de votre santé. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
Alain Kra, bonjour. Vous êtes juriste, consultant, expert en droit de l'homme, VIH et genre. Que savoir de la loi VIH en Côte d'Ivoire?
La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont une loi spécifique portant lutte contre le VIH. Cette loi a été promulguée en 2014 par le président Alassane Ouattara et nous sommes à 10 ans de mise en œuvre de la loi. Évidemment, une loi naît, grandit et par moment a besoin d'une relecture et d'un souffle nouveau.
Quel est l'état des lieux? Où en sommes-nous concernant cette loi qui régit la prise en charge des personnes PPVIH?
Aujourd'hui, nous en sommes donc à l'interrogation des dispositions pertinentes de la loi, leur applicabilité et éventuellement, à la lumière du visage nouveau de l'épidémie, des enjeux nouveaux, aussi de la révolution en médecine, où la qualité, n'est-ce pas, de la prise en charge des personnes avec le VIH est vraiment de mise. Quelle loi, on se pose la question, quelle articulation nouvelle pour la loi? Et je pense que la réflexion court aujourd'hui pour réviser certaines dispositions pertinentes de cette loi.
En termes de protection à l'INCRA, quels progrès ont été faits pour défendre les droits des personnes vivant avec le VIH?
Alors, en termes de protection, d'abord, l'État garantit la confidentialité. L'État garantit, donc, le législateur, pour être un peu plus puriste sur la question de la loi, le législateur garantit donc la confidentialité, le législateur garantit l'anonymat dans la prise en charge, le législateur garantit aussi la protection de la vie privée des personnes avec le VIH et l'État garantit aussi une prise en charge gratuite du VIH et tout service lié à la prise en charge du VIH est gratuit en Côte d'Ivoire. L'État, en termes de protection aussi, protège les personnes avec le VIH contre les abus, contre les atteintes à leurs droits, notamment la stigmatisation, la discrimination et autres atteintes diverses, notamment l'exploitation de leurs faiblesses. Alors quand je dis ça, je regarde ces dispositions pertinentes de la loi sur le VIH qui réprime la publicité mensongère et qui est considérée comme une exploitation de la faiblesse d'autrui. Alors tous ceux qui se prévalent, guérissent avec des produits miracles, le VIH en principe tombe sous le coup de la loi. Donc c'est aussi une protection accordé aux personnes avec le VIH afin qu'ils ne soient soumis qu'au seul protocole validé en Côte d'Ivoire qui est le traitement par les antirétroviraux.
Alors quels sont les principaux défis aujourd'hui?
Les principaux défis, c'est surtout d'abord un, que la loi soit vulgarisée, que le maximum de personnes puissent connaître les articulations majeures de la loi. Parce que 10 ans après, on constate que la loi est assez méconnue et par les professionnels du secteur, et par des professions connexes ou associées, et même la population générale, ils ont entendu peut-être sûrement parler qu'il existe une loi, mais les articulations, les mesures importantes qui sont dans la loi sont encore peu connues. Donc l'un des défis, c'est de porter ce qui est bon, pour ainsi dire, dans la loi à la population générale. L'autre défi, c'est aussi de pouvoir faire une analyse des dispositions au regard, justement, de, j'ai parlé du visage nouveau de l'épidémie, hein, et puis pouvoir y apporter un souffle nouveau qui cadre avec la réalité du moment. La réalité du moment, c'est par exemple que l'âge d'accès au dépistage qui était fixé à 16 ans révolu soit revu, repensé, car des rapports, et non des moindres, et des recommandations internationales recommandent que tous les jeunes et adolescents qui ont besoin d'avoir accès aux services de prévention puissent y avoir accès sans restriction. Et des rapports aussi disent que les jeunes sont précocement actifs sexuellement, à moins de 16 ans, ils ont une vie sexuelle, et donc il faut permettre à toutes ces tranches de jeunes aujourd'hui, de moins de 16 ans, de 14, 15 ans, d'avoir accès de manière autonome, sans être accompagné par les pères, mères ou tuteurs légaux, au service de prévention et de prise en charge du VIH.
Quelles sont les lois en vigueur concernant la divulgation du statut sérologique par autrui?
Alors, dans la loi VIH, dans toute la partie répression, il y a des articles. Alors, pour ne pas les citer expressement, c'est que dans le contenu, on dit que toute personne qui connaît et qui a connaissance du statut sérologique d'un tiers et qui le divulgue, qui le partage sans son consentement, tombe sous le coup de la loi. Et en ce moment, des peines d'emprisonnement ferme, assorties d'amendes, des dommages et intérêts peuvent être attachés justement à cette sanction-là, sont possibles dans la loi. Ce qui fait que l'État donc apporte réparation à toute victime de divulgation de son statut sans son autorisation. Alors que ce soit par voie de presse, par tout autre moyen, ou même par voie aujourd'hui des réseaux sociaux. Et c'est considéré comme une diffamation, une atteinte au droit, et c'est passible de peine d'emprisonnement, de dommages et intérêts et d'amende.
Si possible, de façon détaillée, quelles sont ces peines?
C'est des peines qui vont de quelques mois à plusieurs années, selon la gravité, n'est-ce pas, des faits. Et surtout, la peine est double si c'est un professionnel du secteur médical ou profession associée, un professionnel qui par ses activités, qui concourt à la prise en charge de la personne avec le VIH, en ce moment, la peine prévue par la loi est double. C'est grave. Le législateur a pris en compte justement cette dimension de protection de l'information confidentielle, de protection de la vie privée des personnes qui viennent avec le VIH.
Pourquoi promouvoir cette loi aujourd'hui?
Ça obéit à une volonté d'abord politique du gouvernement de Côte d'Ivoire de protéger les droits de l'homme, spécialement protéger les droits des personnes avec le VIH, protéger les droits des jeunes filles, des femmes et des populations carcérales face à l'épidémie du VIH. C'est d'abord cette volonté qui a été traduite dans la loi. Et dans la courbe, dans l'évolution de l'épidémie, les experts, les acteurs, les gouvernements, le système des Nations Unies, ils sont rendus compte très tôt, au début des années 90 et marqué dans les années 2000, que la prise en compte de la dimension des droits de l'homme était déterminante pour faire fléchir la courbe de l'épidémie du VIH. En clair, les droits de l'homme vont venir donc être comme un catalyseur pour tous les efforts qui ont été menés jusque-là pour que la pandémie du VIH soit réduite à sa plus simple expression.
Cette loi porte sur quoi exactement?
Donc la loi porte prévention, protection et répression en matière de lutte contre le VIH en Côte d'Ivoire. Ça suppose qu'on a trois grandes articulations dans la loi sur le VIH. Une grande articulation avec des dispositions, si vous voulez, des articles qui traitent de la prévention au VIH, notamment les conditions d'accès au dépistage et les conditions, n'est-ce pas, de prise en charge précoce pour éviter l'infection. Ça, c'est la première grande partie et dans cette partie, il y a la consécration des droits de manière universelle, des droits à l'autonomie de la volonté, du droit à la santé, pour tous, sans discrimination, conformément aux conventions et traités internationaux que la Côte d'Ivoire a ratifiés. Dans la grande partie protection, le législateur met l'accent sur la prise en charge des populations spécifiques. Comment il faut prendre en charge les personnes avec le VIH en énonçant la gratuité de la prise en charge? Comment il faut prendre en charge la question des femmes, des jeunes filles qui, dans l'épidémie et par rapport aux chiffres, sont vulnérables au VIH? Et comment il faut prendre en charge les populations carcérales, si on veut dire les prisonniers? Donc, le législateur, dans la grande partie protection, a des dispositions qui promeuvent et qui protègent les droits de ces populations spécifiques et plus largement des professionnels de santé dans l'exercice de leurs fonctions et tout professionnel qui encadre la réponse au VIH. Donc, la troisième partie, c'est la répression. Alors, ici, la loi a qualifié de délit et de crime certains faits, certains agissements. Par exemple, la loi réprime la publicité mensongère. Tous ceux qui font la promotion de produits qui prétendent guérir du VIH tombent sous le coup de la loi parce qu'on considère qu'ils exploitent la faiblesse d'autrui. Et l'État n'a pas encore dit officiellement qu'il y a un médicament qui guérit le VIH en Côte d'Ivoire. La loi réprime aussi tous ceux qui portent des injures, qui discriminent ou qui stigmatisent des personnes avec le VIH. La loi aussi a des dispositions, à partir des articles 48, qui répriment les personnes avec le VIH qui ont l'intention de transmettre le VIH, qui ont des rapports sexuels non protégés, dans l'intention de transmettre le VIH. Donc, toute cette partie répressive, il y a des faits qualifiés de délits et de crimes qui tombent sous le coup de la loi, notamment la rupture de la confidentialité, notamment ceux qui divulguent le statut sérologique des tierces personnes sur les médias, dans le quartier. Ceux-là, ils peuvent, n'est-ce pas, être réprimés et être passibles de poursuites pénales.
À qui s'adressent les avantages liés à cette loi ?
À tout le monde. Aujourd'hui, la lutte contre le sida est une affaire de tout le monde. Mais ça s'adresse aux personnes avec le VIH, aux personnes qui sont affectées, à ceux qui prennent en charge les malades, à ceux qui accompagnent les malades et aussi à ceux qui ont besoin de connaître leur statut pour pouvoir éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes. Et ça s'adresse aussi aux prisonniers, aux femmes, aux jeunes filles qui occupent une place importante dans la réponse. Je vais vous donner un exemple. Elles ont du mal dans les couples et dans les relations à négocier le poids du préservatif, sur le poids de la coutume, sur le poids d'une prétendue dot. Et la loi vient dire non. La femme a le droit de négocier la façon dont elle va avoir des rapports sexuels. La femme a le droit aussi d'utiliser les moyens de contraception qui existent. Cette loi vient consacrer un peu plus les droits de la femme dans la sexualité, donc le droit à la santé sexuelle et reproductive pour la femme et la jeune fille.
Quel rôle jouent les organisations internationales, le gouvernement, les ONG locales dans ce domaine?
Alors, le gouvernement encadre la réponse de manière générale dans tous ces volets de la prévention, en formant d'abord les professionnels du secteur, en encadrant le milieu, en contribuant à l'achat des médicaments, à l'équipement des dispensaires et tout cela. Donc le gouvernement, dans son rôle régalien, comme tout domaine de la santé, comme le PALU, le gouvernement a un programme de lutte contre le VIH-SIDA. Ensuite, comme c'est un problème qui se pose avec acuité, on est encore en période d'épidémie généralisée, des partenaires extérieurs viennent accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Alors ça peut être des bilatéraux, donc des ambassades qui font des appuis, mais il y a deux grands dispositifs qui appuie la Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le Fonds mondial de lutte contre le sida, qui est le panneau commun de tous les pays, qui permet de soutenir la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Et puis, il y a le gouvernement américain à travers le CDC PEPFAR, qui accompagne donc avec des financements conséquents l'État de Côte d'Ivoire à la prévention et au traitement du VIH. À côté, n'est-ce pas, de ces institutions supranationales, il y a des organisations non gouvernementales, de droits ivoiriens, des ONG communautaires, de personnes avec le VIH, de populations clés, de personnes touchées par la pandémie, et puis des ONG d'offre du service, des ONG qui ont été constituées de santé, qui offrent des services de prévention et de prise en charge, qui accompagnent l'État. Alors ces tissus associatifs jouent un rôle important dans la réponse, à côté aussi des institutions du système des Nations Unies, qui ont le mandat de lutter contre le VIH. Mais en Côte d'Ivoire, c'est grâce en partie également au monde associatif qu'on est arrivé à ces chiffres qui sont flatteurs aujourd'hui. On parle de 1,8%. On est parti au début des années 90 à plus de 12% de prévalence aujourd'hui. On peut considérer que la lutte contre le VIH a eu des succès en Côte d'Ivoire. Même si des défis importants restent à être relevés, notamment au niveau des populations dites clés, des populations qui concentrent encore l'essentiel de l'épidémie, et au niveau des femmes et des jeunes qui, aujourd'hui, avec le relâchement, on constate des niveaux d'infection assez alarmant.
La situation de la femme atteinte du VIH, nous y revenons. Alors, sont-elles spécifiquement protégées par ces lois?
Oui, la question de la femme est une attention particulière du législateur. La femme déjà a accès gratuitement aux services de prévention, de prophylaxie et à la prise en charge. Ensuite, elle est accompagnée dans sa démarche vers les centres de santé et dans sa démarche, n'est-ce pas, de traitement. La femme est protégée aussi contre les violences. Alors, il y a d'autres lois qui viennent protéger la femme, qui bénéficient aux femmes avec le VIH. La loi qui protège la femme contre les violences domestiques, la loi qui protège la femme contre les violences basées sur le genre. Toute cette panoplie de dispositions qui protègent la femme peut même aller jusqu'à dans la loi sur les successions, qui garantit à la femme le droit successoral, qui lui permet, n'est-ce pas, de se prendre en charge. Donc, différentes dispositions comme ça qui promeuvent les droits des femmes et qui bénéficient donc aux femmes avec le VIH, car réduit leur vulnérabilité à la maladie. Donc j'ai parlé du droit successoral, l'accès à la terre, pour citer ces lois qui on pense loin, n'est-ce pas, de la santé. Et puis même dans la santé, il y a toutes les dispositions qui permettent à la femme d'avoir accès au dépistage gratuitement, d'avoir des kits d'accouchement, de pouvoir se prendre en charge, les traitements gratuits et d'accompagnement, d'encadrement, n'est-ce pas, de son état mental. Il y a un programme aujourd'hui national de santé mentale qui accompagne aussi les femmes avec le VIH dans leur démarche de restauration psychologique et d'estime de soi. Donc l'État attache une attention particulière à la question de la femme avec le VIH.
Quelles sont les dernières avancées scientifiques dans la recherche sur le VIH?
Pour ce que je sais, travaillant avec eux, c'est qu'il y a une véritable révolution dans la prise en charge. Ce n'est plus en ces moments où les traitements étaient chers, gratuits et inaccessibles. Aujourd'hui, les traitements sont gratuits. C'est déjà une révolution. On connaît mieux l'histoire naturelle du VIH et l'État a formé beaucoup de praticiens. On le retrouve sur l'étendue du territoire national. Avant, il fallait venir à Abidjan pour avoir accès au traitement aujourd'hui. Dans tous les départements de Côte d'Ivoire, sur la centaine de districts sanitaires, les traitements sont disponibles et des personnels formés disponibles accompagnent les personnes avec le VIH.
Nous sommes à la fin de cet entretien. Que doit retenir l'auditeur?
L'auditeur doit retenir que les droits de l'homme sont également une réponse aux pandémies. On peut considérer ainsi que l'un des déterminants de la santé, c'est la prise en compte de la dimension des droits de l'homme. Voilà, dans toutes les interventions, dans tous les programmes de santé, notamment lorsqu'il s'agit de maladies stigmatisantes, à fort taux de stigmatisation, qui font perdre l'estime de soi et où la question de la vie privée est au cœur de l'adhésion au système de santé et à l'offre de santé, retenons que la prise en compte des droits de l'homme détermine finalement le succès de nos programmes de santé.
Merci Alain Kra.
Merci à vous.
Santé pour tous, tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolou.
Il est crucial de rappeler que l'évolution des lois autour du VIH doit s'accompagner d'une mobilisation collective impliquant les gouvernements, les organisations de la société civile et les communautés. En travaillant ensemble pour garantir des cadres juridiques adaptés, nous favorisons non seulement la protection des personnes, mais également un accès équitable aux soins et à l'information. Il s'agit d'un combat commun où l'éducation, la solidarité et l'engagement citoyen sont des piliers essentiels pour une société plus inclusive et sans stigmatisation. On en parlait avec Alain Kra, il est juriste, consultant expert en droit de l'homme, VIH et genre. Fin de Santé pour tous. Merci et à bientôt.